Bon, je voudrais vous remercier pour cette intervention. Double titre en tant que responsable local qui finance des études qu'on aimerait bien supprimer mais qu'on n'arrive pas à supprimer. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en tant que père d'une enfant de CE1 dont j'avoue, je ne comprends pas toujours le soir à la maison. Et pourtant, il me semble que voilà, je fais pas partie des gens qui ont des difficultés à lire, à comprendre. Mais voilà, entre ce que mon enfant me dit, ce que je lis et ce qui doit être l'exercice réel, enfin entre le réel et le prescrit, il y a un sacré écart. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des jours, bon, je me pose des questions, mais là aussi, voilà, vaste débat. C'est compliqué de dire à l'enseignant ces choses-là. Par contre, là, je fais un peu de polémique pour venir. Les enseignants viennent dire ce qu'on fait dans le périscolaire, c'est pas bien. Ça, par contre, ça marche plutôt bien dans ce sens-là. Alors, nous, on essaie de supprimer les études pour tout un tas de raisons. On s'est retrouvé avec deux oppositions, en fait, deux alliés de circonstances, les parents d'un côté, les enseignants de l'autre. Alors, les parents d'un côté, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de devoir, ça veut dire qu'on fait rien, en fait. Alors ça, on en a beaucoup discuté avec l'inspecteur d'académie qui se bat avec ses enseignants et qui aujourd'hui gère des parents qui disent mais mon enseignant est nul, il n'y a pas de devoir à faire, mon enfant, voilà. Donc ça, c'est, enfin, on est dans des espèces de schémas mentaux qui sont compliqués à sortir. Alors après, dans les parents, on a plusieurs catégories de parents. Il y a ceux qui parlent mal la langue, enfin dans les quartiers populaires notamment, qui disent mais moi s'il n'y a pas de devoirs, pas d'études, je peux pas suivre la scolarité de mes enfants. Il y a ceux qui nous disent bah moi je travaille, je rentre tous les soirs à 19h, je récupère mon enfant à la garderie, j'ai pas le temps de m'en occuper, le remettre à 20h après manger sur les devoirs, c'est compliqué. Et puis il y a les catégories socio-professionnelles plus qui eux mettent les gamins à l'étude et qui refont les devoirs derrière à la maison. Et bon, c'est des petits qui, on est d'accord, ont besoin ni de l'un ni de l'autre, mais qui sont très suivis. Puis de l'autre côté, on a les enseignants qui sont là à double titre, en tant que prescripteurs de devoirs, et puis aussi en tant que salariés de la mairie sur le temps des études, puisque 90% de nos intervenants sont des enseignants, et heureusement d'ailleurs, parce que, enfin, très, très honnêtement, en termes d'outils, et puis de, enfin, on ne trouverait pas. Et qui eux nous disent effectivement, bah, c'est très important, on peut pas le supprimer. Donc avec les parents, ils remontent aussi les parents là-dessus. Et en même temps, moi, on me parle de méthodes pédagogiques dans l'étude. Donc voilà, enfin, un cas concret, un directeur d'école super avec qui on travaille très bien, qui se bat sur son école et qui me dit, mais moi, je veux bien organiser, continuer à gérer les études, mais c'est ma méthode. Sinon, il y a plus d'études. Dire mais méthode pédagogique, enfin on n'est plus, l'école est finie, enfin c'est pas l'école après l'école, et voilà, et on est vraiment sur des choses très compliquées, et on a tenté dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs plutôt que des rythmes scolaires de faire changer ça, et on s'est retrouvé avec une levée de bouclier, et c'est les parents qui ont mené la fronde, et donc du coup on continue à payer des études. Voilà, donc je sais pas trop comment on va s'en sortir, voilà, mais je trouve que c'est intéressant et j'aimerais bien que là-dessus, enfin, il y ait de l'outillage. Nous, on est tous convaincus quand je discute avec mes collègues des villes, enfin, on est tous sur la même longueur d'onde, mais quand, voilà, côté éducation nationale, j'ai l'impression, enfin, voilà, alors je sais qu'un enseignant qui fait 4 heures d'études par semaine toute l'année, il se fait un 13e ou un 14e mois parce qu'ils estiment qu'ils sont pas bien payés par leur institution, enfin, ça, on l'entend, voilà, mais, comment on peut réussir à travailler ça, et puis moi j'aimerais bien avoir des dispositifs, c'est dire mais pourquoi, alors il y a du soutien, on est d'accord, enfin des APC, mais pourquoi tout le monde va à l'étude, est-ce qu'on pourrait pas se dire on en prend que 7 ou 8 ceux qui sont les plus en difficulté et on fait un vrai travail justement pour leur aider à réapprendre ce qu'ils arrivent pas à apprendre, et celui qui va bien, qui sait tout, il peut aller taper le ballon dans la cour, enfin voilà, mais ça c'est des questions qui sont tabous, on est dans un principe d'égalité, c'est ou tout le monde ou personne, voilà, donc c'était juste un petit témoignage, mais merci en tout cas, c'était rafraîchissant.
Peut-être deux réactions. Ça m'a fait penser à deux choses dont j'ai pas parlé. D'une part, l'étude, finalement, elle permet à l'école de perdurer. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, à la forme scolaire assez traditionnelle de perdurer. Parce que avec la forme scolaire traditionnelle, il y a un certain nombre d'enfants qui ont du mal à suivre. Dans les classes, il y a des enfants qui ont du mal à suivre et qui ont du mal à s'approprier les notions. Avec les devoirs, l'école externalise non pas les devoirs, mais les difficultés. Elle externalise sa propre difficulté à faire apprendre les enfants. C'est-à-dire que les enfants n'arrivent pas à apprendre à l'école, on leur donne des devoirs, ils doivent apprendre les leçons, et donc ils doivent s'approprier eux-mêmes les notions, et s'ils n'ont pas appris, eh ben c'est leur faute. C'est leur faute et la faute des familles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien fait leurs devoirs, autrement dit, la difficulté, elle est externalisée. Et pour les familles, pour certaines familles, c'est tout simplement insupportable, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'a pas les moyens de le faire et qu'on est obligé, qu'on est sommé de le faire, c'est pas tenable. Donc, il y a une forte pression sur les municipalités pour qu'il y ait des dispositifs d'aide aux devoirs, bien sûr. Donc, on se retrouve avec des dispositifs qui sont, on va dire, plus ou moins efficaces, enfin, pas scolairement très efficaces, mais qui permettent tout simplement à la forme scolaire de continuer à exister telle qu'elle existe. Parce que sinon, si on n'avait pas cette possibilité d'externalisation, il y aurait obligatoirement modification de la forme scolaire. Deuxièmement, j'ai parlé d'études où c'était des enseignants qui intervenaient, comme les études dont vous parlez. C'est très intéressant parce que même quand ce sont des enseignants qui interviennent, et y compris des enseignants de l'école, il n'y a absolument pas de discussion entre les enseignants qui interviennent dans les études et les enseignants des classes sur les devoirs. Parce que ce serait dangereux. Ce serait intervenir dans la pédagogie d'un collègue et on risque de faire éclater les équilibres d'une école, les territoires des uns et des autres. Et donc là, il y a quelque chose de très compliqué parce que à aucun moment la prescription n'est mise au centre des discussions. À aucun moment. Il y a une espèce de tabou là-dessus. Donc moi, il me semble qu'il y a quelque chose à faire du côté de la formation des gens qui interviennent dans les études, y compris et surtout quand ce sont des enseignants. Parce que quand on les forme à tenir des études, automatiquement, on les forme à prescrire autrement. Voilà. Donc, je trouve que c'est une piste qui est plutôt intéressante.
Par contre, quand les enseignants interviennent et interviennent sans être en rapport avec leur propre classe, et quand c'est bien dit et bien fait, il y a vraiment une avancée pour certains enfants, parce que par rapport à l'apprentissage scolaire, des fois c'est les moyens mnémotechniques qui sont pas adaptés, c'est-à-dire le discours de l'enseignant, des fois la méthode ne passe pas avec tel ou tel enfant. Par contre, un autre enseignant a peut-être le petit déclic qui fait que ça marche. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et on est on appelle ça accompagnement à la scolarité. Je pense que ça s'appelle à peu près partout pareil. Nous, on a la chance d'avoir une association partenaire qui pilote l'organisation de l'accompagnement à la scolarité. Donc, c'est quand même une demande de la collectivité, un partenariat et par un marché public. Mais c'est elle qui est en relais et en relation aussi fortement avec les enseignants. Et on a des groupes de 5 à 8 enfants maximum. Et si on a 5 enfants seulement dans l'école, on le fait dans le groupe, on le fait quand même. Donc on augmente le temps de ce que vous disiez tout à l'heure, le temps d'intervention individualisée. Donc c'est assez intéressant. Par contre, je peux pas vous dire au niveau des résultats s'il y a eu quelque chose ou pas en cours. Voilà. Et puis ça se fait les inscriptions se font qu'avec les enseignants. C'est-à-dire que ce sont les enseignants qui ciblent les enfants en relation avec les parents qui ont des besoins en fonction de la scolarité actuelle du moment, et un enfant qui peut faire le premier trimestre ne fera pas forcément le second si il y a eu une avancée, et voilà. Donc je me dis que c'est des petites pistes qui sont intéressantes, et quand on n'a pas du tout d'enfants, parce qu'il arrive que des fois on n'est pas d'enfants, la décision elle est familiale à la fin aussi, hein, donc voilà, on peut réinjecter le groupe sur une autre école quand il y a des besoins. Donc on essaie d'avancer par rapport à ça. Par contre, on est quand même malgré tout à un carrefour entre l'enseignant et l'intervenant formé, parce qu'ils sont formés. Beaucoup de collectivités et d'associations, c'est vrai que l'enseignant a un avantage indéniable sur la qualité et la gestion du groupe le soir par rapport à un étudiant qui ne viendrait qu'une fois ou deux fois par semaine, ne serait-ce que pour sa place d'enseignant. Alors un étudiant des fois a énormément de difficultés à se faire entre guillemets entendre, à mettre en place sa pratique et tout ça. L'enseignant y arrive. Par contre, à contrepartie, des fois on a des enseignants effectivement qui refusent de faire autrement que ce qu'ils connaissent, et alors que l'étudiant lui serait, ou l'intervenant formé serait plutôt ouvert pour ça. Et je pense que là aussi le discours, je pense que ça peut être intéressant de jouer avec les deux, mais là par contre il y a énormément de choses encore à faire. Si on reste sur une logique d'accompagnement scolaire, d'études d'école après l'école, parce que alors moi, à titre très personnel, je ne suis pas forcément un fervent défenseur. Il me semble que les enfants ont passé beaucoup de temps et qu'on peut trouver d'autres moyens et d'autres leviers pour arriver à les faire réussir à l'école. Mais malgré tout, on a réussi sur la ville. Les parents ne nous mettent pas une injonction de faire de l'accompagnement à la scolarité, parce qu'en même temps, c'est eux qui décident au dernier moment.
Je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites. Alors à Marseille, vous avez évoqué le nombre d'élèves, effectivement, pour les études, le nombre est important. À Marseille, il existe un dispositif qui est à peu près équivalent, qui s'appelle le dispositif Mars, comme Marseille, coup de pouce CELEM. Je ne sais pas si ça doit être à peu près la même chose. Donc ce sont des prises en charge pour les élèves, donc ce n'est pas l'école après l'école, mais alors là, c'est le coup de pouce est ciblé, effectivement, sur les élèves de CP, c'est l'enseignant qui établit au préalable le besoin, et le CELEM pour les CE1 plutôt. Et là, il s'agit de prendre en charge 5 à 6 élèves, et c'est un animateur qui prend en charge ce groupe d'élèves. C'est assez... Il y a un protocole, il faut absolument le suivre, c'est-à-dire qu'il y a un temps de jeu, un temps de goûter et un temps de lecture autour d'albums ciblés. Donc, et ça, en fait, ce dispositif est un peu... comment dire, alors je ne sais pas si je peux dire complémentaire ou au contraire qui arrive contre l'étude, puisque à l'étude ce sont des enseignants, je suis enseignante, hein, je suis professeure des écoles à la base, et donc les études sont prises en charge par les professeurs des écoles. Donc alors après il arrive d'autres problématiques, une étude est payée bien plus qu'une prise en charge coup de pouce CELEM. Voilà, donc je voulais juste dire qu'à Marseille, il existait quelque chose de ce type. Et juste aussi une remarque sur votre propos très intéressant. Il me semble qu'un paramètre, je ne sais pas si vous l'avez évoqué ou ça m'a peut-être encore échappé, qui me semble important, c'est l'enseignante dont vous parliez, dans l'exemple du pluriel, du singulier. Est-ce que c'était une enseignante chevronnée? Est-ce que c'était une maître formateur, maître formatrice? Est-ce que justement elle crée des outils? Moi, ça m'interpelle. Tout ça m'interpelle, en fait. Et puis, je voulais aussi vous cibler très bien, sans le dire, la difficulté pour un enseignant d'avoir un regard critique qui est porté sur son travail et sur ses gestes professionnels. Je suis aussi maître formateur, donc entrer dans la classe d'un enseignant, c'est difficile. Voilà, ouais. Merci.
Alors, il y a plusieurs choses, oui. Donc, l'enseignante, c'est pas une enseignante chevronnée, elle a 4 ans, 4-5 ans d'ancienneté. C'est dans une école très difficile. Les équipes souvent sont plutôt jeunes dans ces écoles. Voilà. Mais oui, mais de fait, quand on va dans les écoles un peu difficiles, les équipes sont souvent jeunes. Peut-être plusieurs choses. D'abord, sur l'idée que ça marche mieux avec des enseignants, c'est sûr que les enseignants ont plus de facilité, mais malgré tout, les gestes professionnels des enseignants, c'est pas exactement les mêmes que les gestes professionnels de l'étude. Et donc, bien que ce soit des enseignants, je crois qu'il y a une formation spécifique pour l'étude qui serait intéressante pour les enseignants. Deuxièmement, l'idée qu'il y a un déclic pour certains enfants parce que tout à coup, ils sont plus face au même enseignant, quoi, en gros. Oui, c'est vrai, et on en a vu, effectivement. Mais quand on a observé des déclics chez certains enfants, c'est souvent des enfants qui n'ont pas besoin de grand-chose. C'est-à-dire des enfants qui sont presque. Voilà. Ça leur donne vraiment un tout petit quelque chose. Et l'enseignant dont j'ai l'enseignant encadrant de l'étude dont j'ai montré un verbatim là tout à l'heure, qui dit il a rien compris, etc. C'est un excellent enseignant. On l'a vu faire comprendre des choses à certains enfants, mais il y a un moment où il était débordé, il était dépassé par la taille des problèmes, en fait. Et je vais vous donner un exemple que j'ai observé alors dans un autre cadre, mais également en ZEP. À l'époque, c'était en ZEP. D'une étude avec 3 enfants. Très intéressante. Avec une enseignante, c'était une enseignante qui l'encadrait, elle était excellente. Sur la phrase négative. Donc les enfants avaient une leçon à apprendre sur la phrase négative. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase négative? Donc ils sont arrivés en n'ayant rien compris. Ils savaient pas de quoi parler leur leçon, ils avaient rien compris. Et elle a pris une demi-heure avec les 3 enfants pour leur expliquer ce que c'était qu'une phrase négative, les différents cas. On peut mettre ne pas, ne plus, etc. Bon, l'idée qu'il y a 2 petits mots. Bon, et au bout de... Donc l'étude durait une demi-heure parce qu'ensuite ils échangeaient. Au bout d'une demi-heure, les enfants sortent en ayant fait leur devoir, c'est-à-dire il fallait écrire une phrase négative, ils avaient écrit leur phrase négative. elle leur avait fait travailler leurs leçons. Bon, je me dis formidable. Et puis, quand même, je vais voir un élève et je lui dis, bon, c'est bon, t'as compris, oui, oui, oui. Mais toi, dans le fond, est-ce que t'en utilises des phrases négatives ? Moi ! Et là, c'est comme si je l'avais insulté. Si vous... Moi ! Non ! J'en utilise jamais. Donc, avec une magnifique phrase négative, bien sûr. Donc, tout ça pour vous dire que, certes, il peut y avoir un travail dans les études, mais il y a quand même une très grosse inertie des difficultés des élèves et des choses à reprendre très, très en amont et parfois d'une façon qu'on n'imagine même pas. Donc, il y a quand même une généalogie des difficultés qui est assez difficile à faire en situation. Et puis, pour coup de pouce et LM, donc coup de pouce LM, oui, j'en ai observé plutôt sur Paris, dans certains quartiers de Paris. Et alors il y a des évaluations des coups de pouce LM et des évaluations qui sont assez contradictoires. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est que ça dépend beaucoup de la personne qui tient le coup de pouce ou LM. Franchement, il peut y avoir des coups de pouce LM qui marchent très très mal et des coups de pouce LM qui marchent pas trop mal. Voilà, moi je ne fais que de la recherche qualitative, donc pour tout ce qui est quantitatif, je vous renvoie bien sûr à d'autres choses qui ont pu être faites. Mais il y a des évaluations des coups de pouce LM, y compris des évaluations récentes.
Oui, je souhaitais intervenir sur trois points. Le premier point qui concerne en REP+, donc la journée continue, et qui nous permet de mettre en place un temps d'accueil individualisé pour le travail, qu'on pourrait appeler aussi de l'aide aux devoirs. Et le constat qui a été fait rapidement par les enseignants, c'est que des enseignants d'une même discipline ne comprenaient pas la consigne qui était donnée par un collègue de la même discipline. Donc ils se sont retrouvés en groupe de concertation sur comment passer la consigne aux élèves et comment s'assurer que la consigne est comprise. Et ça n'a pas été simple. Hein. Deuxième point qui concerne les devoirs, ils ont été dans la réflexion sur le devoir à donner est important, la reprise du devoir qui a été donné est encore plus importante. Comment l'enseignant s'assure qu'effectivement l'élève a pu, soit sur l'établissement, soit chez lui, entrer dans le devoir et qu'est-ce qu'il en a compris ? Et ils se sont donnés comme code déontologique. Maintenant, est-ce qu'il le respecte à 100%? C'est que je ne donne un devoir qu'à partir du moment que je sais comment l'évaluer et comment je sais le reprendre après. Et troisième point, sur votre position sur le travail écrit et la leçon, notamment sur l'école élémentaire, je crois que tout dépend quel est le travail écrit qui est donné. Si c'est un travail écrit, on va dire, d'entraînement, type GLED, entre guillemets, il y a quelques années, qui faisait, qui portait, paraît-il, des fruits, effectivement, ça peut être un travail écrit. Mais si c'est un travail écrit où l'élève doit comprendre la notion, on est dans le même cas que la leçon à apprendre, je crois que ça demande un accompagnement. C'est vraiment, je pense, plus difficile. Et tous les devoirs qui sont donnés à l'école élémentaire, les plus délicats pour les familles, c'est là où il y avait du raisonnement, où ils ne pouvaient pas accompagner leur enfant.
Tous les devoirs sont délicats, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a... Dans tout devoir, en principe, il y a des notions. Il y en a toujours. Et donc, c'est toujours délicat. Simplement, il y en a qui sont quand même plus ou moins, que les enfants arrivent plus ou moins à faire. Et les exercices d'application, les enfants arrivent généralement mieux à les faire que apprendre une leçon. Ce qu'on trouve dans les devoirs écrits qu'on trouve, c'est toujours des exercices d'application à l'école élémentaire. Il y a très très peu de tâches d'écriture vraiment où ils doivent écrire un texte. C'est rarissime. Enfin, dans les cahiers qu'on a observés, hein, on a dans l'étude qu'on a faite. Dans ce qu'on a observé, vraiment les leçons, ça posait vraiment beaucoup plus de problèmes aux enfants. Pour ce qui est de la reprise des devoirs, alors on n'a pas pu l'observer parce que on n'est pas allé dans les classes dans cette recherche, mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était un problème, c'était une faiblesse de la recherche. Donc, j'en ai entrepris une deuxième, qui est ma thèse, dans laquelle je vais dans les classes. C'est-à-dire, je suis les enfants dans toute leur journée d'école, depuis 8h30 du matin jusqu'à 6h du soir, tout ce qu'ils font. Et donc, là, je vois le retour qui est fait des devoirs dans les classes. Et les devoirs ne sont pas du tout systématiquement repris dans les classes, loin de là. Et quand ils sont repris, le fait de les reprendre ne donne qu'un aperçu assez lointain des difficultés qui ont pu être celles des enfants quand ils ont fait leur devoir. En revanche, quand on est dans une salle d'études et qu'on observe les enfants faire des devoirs, là, on voit des choses. On voit vraiment beaucoup plus de choses parce qu'on les voit en train de travailler. Et ça renvoie à ce que disait Stéphane sur le travail personnel des enfants. En fait, la question fondamentale, elle est là. C'est l'articulation entre ce que fait l'enseignant et le travail personnel des enfants.
Moi, j'ai une question donc sur les systèmes étrangers, puisque j'ai le souvenir, ayant fait une visite d'études il y a 2 ans en Finlande, d'avoir rencontré donc des chefs d'établissement qui me disaient que dans leur système, le devoir à la maison, c'était assez rare. C'était souvent des sortes d'exercices qui étaient proposés sur des cahiers, mais qui dans tous les cas donc n'étaient pas évalués donc par l'école. C'était une façon de concevoir une sorte d'apprentissage au travail personnel, compte tenu que là les enseignants donc donnaient des pistes de travail pour approfondir, pour essayer donc d'optimiser ce qu'ils avaient appris, mais que le retour à l'école en fait ne s'effectuait pas. Donc, je voulais savoir si vous aviez fait des comparaisons avec d'autres systèmes au moins européens pour mieux connaître la place des devoirs. Dans le...
Alors, la réponse est non.
Donc,
c'est réponse rapide, mais on sait que les devoirs existent à peu près dans tous les pays. Alors, après, ça dépend du niveau, évidemment, auquel ils sont prescrits, mais bon, c'est quand même quelque chose qui revient. Il y a des études aux États-Unis qui sont faites sur les devoirs, il y en a beaucoup. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le système états-unien. Notamment un chercheur qui, depuis les années 80, essaye de démontrer que les devoirs ont un effet favorable sur les apprentissages. Et bon, après 30 ans, il a dû finir par admettre qu'il n'était pas capable de montrer que les devoirs avaient un effet favorable sur les apprentissages. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a quand même des cultures nationales. Bon, on peut dire que les devoirs n'existent pas en Finlande, mais la Finlande n'est pas la France. Et donc... Il y a sûrement des choses à prendre dans d'autres pays, dans des fonctionnements, mais il y a quand même. Enfin, moi, je suis dans un labo de sociologie, et donc il y a quand même des pratiques qui sont installées et qui sont très difficiles à changer. Tout à l'heure, on a eu un aperçu du fait que les parents étaient demandeurs, qu'il y a des enseignants qui sont aussi demandeurs, qui pensent qu'ils vont être des mauvais enseignants s'ils le font pas. Voilà, donc c'est des choses qui évoluent très 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 lentement, malgré l'interdiction qui date quand même de plus de 50 ans. Donc c'est très difficile en fait de faire évoluer les pratiques. Voilà, et ça, je crois que les choses n'évoluent que par petites. Par petites touches, il y a des petites marges de manœuvre, on peut bouger un petit peu, mais dire que là-bas il n'y en aurait pas et que donc on peut faire la même chose, ça me paraît un peu utopique.
Oui, je voudrais revenir un petit peu donc à ce qu'on vit nous dans le PRE à Vénissieux. On met en place des actions d'accompagnement à la scolarité individualisée au domicile pour être complémentaire à ce qui existe sur le territoire et pour avoir cet objectif de pouvoir associer le parent dans le quotidien et faire rentrer un peu l'école à la maison. Et on conçoit l'accompagnement à la scolarité comme quelque chose de beaucoup plus large qu'une simple aide aux devoirs, mais on est complètement envahi par les devoirs à la maison parce que, voilà, si l'enfant est déstabilisé par les questions que peut poser le vacataire, parce qu'on les forme beaucoup à l'école, tous les travaux d'école à Midou. Mais du coup, l'enfant est complètement déstabilisé si on le questionne sur « Mais qu'est-ce que tu as appris ? De quoi ça parle ? Où est-ce qu'on va chercher ? Mais non, qu'est-ce que je dois mettre ?» Et la famille est complètement déstabilisée si elle voit le vacataire faire travailler les angles droits en les cherchant partout dans la maison. « Oui, mais vous avez bientôt fini, les devoirs sont pas terminés. » Et voilà, et on est pris par ces pressions-là. Alors que on aimerait déconstruire le fait que c'est pas parce que on maîtrise pas les contenus scolaires qu'on peut pas aider à suivre la scolarité, et c'est pas parce en faisant tous ces devoirs consciencieusement qu'on va réussir mieux à l'école. On a énormément de mal à déconstruire ça. En termes d'anecdotes, je pourrais simplement vous dire très vite, je suis rentrée dans une famille il y a pas très longtemps pour faire un point de l'accompagnement à la scolarité avec le vacataire, les parents et l'enfant. C'est une enfant qui était très fière de sortir son livret d'évaluation, qui avait très bien réussi une évaluation sur l'heure. Donc les parents étaient très fiers de voir qu'elle avait un B sur la compétence A3 du livret de compétences. Enfin voilà. Et je lui dis, mais c'est bien, regarde ma montre maintenant. Alors quelle heure il est ? Et elle a ouvert des grands yeux, elle m'a regardé, elle a dit, mais pourquoi ? C'est fini les évaluations. Donc on a cette question du rapport au savoir qui a travaillé énormément. Quel sens ça a ? Pourquoi on apprend ? Et ça, ça prend du temps. Et s'il y a les devoirs, on n'y arrive plus.
C'est trop. Alors, on a regardé un peu la quantité de devoirs dans les cahiers textes, dans des cahiers textes de CE1. Et donc c'est assez intéressant. Donc on a quantifié ça en nombre de tâches par jour. Et on arrive sur 2,5 tâches par jour de prescription, mais avec des très très fortes disparités. C'est-à-dire qu'on peut monter à 15 ou 17 tâches. Donc des choses qui sont, on se dit, mais l'enseignant qui prescrit 15 tâches, à quoi bon ? Enfin, qu'est-ce qu'il attend ? Quand bien même ce serait du mardi pour le jeudi à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore l'aménagement des rythmes scolaires, ça paraît fou. Et donc effectivement, cette pression de la quantité de travail à fournir, enfin de tâches à réaliser, elle est très très forte. Et dans les études, on est en permanence face à une contradiction entre court terme et long terme. C'est-à-dire que il faut aider les enfants à se mettre en conformité avec la règle de l'école, avoir fini ses devoirs, mais en même temps, si l'étude ne les aide pas à comprendre un petit peu, à quoi bon l'étude ? Donc il y a toujours cette... C'est vraiment une contradiction complète, souvent. C'est-à-dire que pour aider les enfants, il faudrait renoncer à faire les devoirs, pratiquement. Les prendre comme prétexte et dire « les devoirs ne sont pas faits, tant pis, mais on a travaillé sur autre chose dont tu avais besoin ». Voilà. Mais c'est quelque chose qui n'est pas audible ni par les enfants, qui, eux, ont la pression de leurs enseignants, ni par les parents. Donc c'est compliqué.
Alors, juste là-dessus, c'est bien qu'intervient là la question de la coopération partenariale. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où on peut instaurer un échange, un dialogue entre l'accompagnant, le parent et l'enseignant, qu'on peut dénouer l'affaire. Et donc, c'est tout l'enjeu de construire cette réflexion partagée sur un territoire. Il nous reste 10 minutes, on peut prendre encore une ou deux questions.
Anne-Laure Briand, je suis responsable d'un service dans une commune de l'Isère qui rassemble notamment la jeunesse, l'accompagnement, la scolarité. Et justement, par rapport à cette question du partenariat sur lequel vous avez conclu, vous indiquiez l'intérêt en tant qu'observatoire des études pour les partenaires. Le problème, c'est ensuite la pénétration de ces partenaires dans le monde de l'éducation nationale, qui pour nous est la grosse complexité, c'est-à-dire qu'on arrive à faire fonctionner très bien un réseau des acteurs de l'enfance et de la jeunesse. Mais faire fonctionner ce réseau avec l'éducation nationale, c'est notre grosse difficulté. Donc je ne sais pas s'il y a des expériences dans la salle ou si ça va être vraiment un des sujets abordés durant ces 2 jours, de partage d'expériences qui ont fonctionné justement pour que cette pénétration soit possible, ces échanges soient possibles, au-delà du réseau externe à l'école.
Alors, pour vous répondre, oui, il y a des expériences, et puis on vous en présentera quelques-unes, et puis des outils pour construire aussi ce travail. Mais c'est là aussi qu'où intervient la question du pilotage local, interinstitutionnel. Je voudrais juste vous montrer, c'est une présentation qu'a fait Véronique Laforêt, qui travaille très souvent en Isère, qui a fait cette présentation à un stage sur le pilotage en éducation prioritaire ici. Si on veut que le partenariat fonctionne bien au niveau des professionnels de terrain directement en contact avec le public, il y a bien la question du partenariat et de l'interinstitutionnel entre pilotes des différentes institutions sur un territoire et puis plus largement sur les niveaux départementaux ou académiques. C'est-à-dire qu'on, et c'est intéressant de la manière dont elle a présenté les choses. Souvent, on présente la pyramide en haut. Il y a les responsables, les métiers intermédiaires et puis les métiers de terrain. Là, c'est comment on réfléchit à construire des partenariats institutionnels pour outiller, pour permettre les collaborations au niveau du terrain. Voilà. Et voilà, clairement, c'est la question. Comment on peut réfléchir avec l'IEN de la circonscription, avec le principal du collège, se poser collectivement quelle est la nature du problème qu'on rencontre, Alors, par exemple, sur la question des devoirs ou de l'accompagnement à la scolarité, et comment on peut essayer d'instaurer des choses, des réflexions, des formations qui permettent à chacun d'avancer, et puis surtout aux uns aux autres de connaître les difficultés. Voilà, mais c'est un vaste chantier.
Peut-être que je peux rajouter quelque chose. Les enseignants sont pas tellement demandeurs, vous vous en étiez rendu compte. C'est-à-dire qu'on leur demande déjà pas mal de choses, en fait, aux enseignants, et de plus en plus de choses. Le métier devient quand même assez difficile. C'est pas évident qu'ils aient envie d'aller faire des réunions supplémentaires. Voilà. Mais il me semble qu'il y a, avec la refonte de l'éducation prioritaire, justement, avec les journées de formation, enfin la formation qui est dégagée dans les REP+, mais pas dans les REP, je pense pas, hein, que dans les REP+. La formation qui est dégagée dans les REP+, pour moi, c'est une possibilité de travailler ça. C'est-à-dire que c'est finalement un moment où les enseignants sont captifs, ils sont bien obligés d'y être d'une façon ou d'une autre, et la question du partenariat des devoirs, ça peut être posé dans ce cadre-là, mais à condition évidemment que vous soyez mis d'accord avec les personnes de l'éducation nationale. Sinon, ça n'aura pas lieu. Juste pour anecdote, on a fait une restitution de cette recherche sur le terrain où on l'avait fait auprès des enseignants. Et je crois que sur, je sais plus, une centaine d'enseignants, on en a eu 3. Donc, voyez, mais bon, en même temps, je les comprends. On leur demandait de venir à 6 heures. Donc, il y avait une immense salle. C'était très bien organisé par la ville. Ça leur rajoute des choses. Ils n'ont pas envie de l'entendre. Bon. Mais malgré tout, il y a un moment où ce serait bien que ça se fasse.
Ceci dit, il y a quand même des lieux et des temps institutionnels prévus pour ce genre de travail, y compris dans le premier degré, pour tous les enseignants qui sont les animations pédagogiques. C'est comment, au niveau du pilotage, on remet sur la table les choses qui sont réellement prioritaires parce que génératrices d'inégalités, ou est-ce que les animations pédagogiques, on traite de choses qui sont peut-être moins urgentes. C'est une question de quelle priorité sur les temps de formation qui sont existants partout. Et y compris en collège par et plus, il y a la possibilité pour un chef d'établissement de demander une formation d'initiative locale. Enfin, il y a un certain nombre de possibilités quand même qui existent. On ne faut pas dire que tout soit verrouillé partout. Et je pense que la question, c'est est-ce qu'on utilise vraiment ces possibilités pour ce qui produit des inégalités et pour remettre en chantier ce qui en produit.
Je suis principal adjoint d'un collège au Maguette, Paul Éluard à Vénissieux. Je voudrais juste ajouter quelque chose à votre remarque, c'est que souvent les personnes ne sont pas éducation nationale, donc ont cette critique face à la difficulté d'aborder et travailler avec l'éducation nationale. Ce que je voudrais dire, c'est que au sein même de l'éducation nationale est très plurielle. Et c'est très difficile aussi de travailler. Il faut savoir, par exemple, entre le premier degré et le second degré, les temps des enseignants du second degré sont pas les temps des enseignants du premier degré. Et avec REP+, on va peut-être pouvoir enfin avoir un temps commun. Mais depuis la disparition des REP, quand les REP ont été transformés en RS, ça a complètement détruit toutes les collaborations premier degré, second degré. Et depuis 7 ou 8 ans, par exemple, on peut pas faire de stage commun enseignants du premier degré, deuxième degré, parce qu'on n'a pas des autorisations d'inspecteurs qui permettent de libérer les enseignants parce qu'ils ne sont pas remplacés, etc. Et bon, sur la commune de Vénissieux, par exemple, on est en train de travailler justement, on a mis un an à travailler sur la participation des collèges au dispositif des PRE, c'est-à-dire faire permettre aux collégiens de participer aux actions du PRE. Pour l'instant, sur 130 situations, il y avait qu'une petite dizaine qui était collégienne. Mais Vénissieux, c'est 5 collèges. Donc déjà, au niveau du second degré, il faut se mettre d'accord à 5 collèges, les principaux, les établissements, les assistantes sociales, en fait, tous les personnels, pour arriver à un travail qui pourra être en commun. C'est aussi déjà très compliqué à l'intérieur, donc je pense qu'à l'extérieur, il faut se rendre compte et puis initier peut-être, à l'extérieur, si vous avez besoin de quelque chose de collectif, initier peut-être auprès de l'éducation nationale ce travail en commun, pour pouvoir travailler après.
Je vais juste prendre la parole quelques instants. Je travaille à la ville de Strasbourg, donc je suis responsable de projet périscolaire, en charge notamment des ateliers éducatifs de fin d'après-midi et de l'accompagnement scolaire, hein, pour résumer. Et donc, moi, je voulais donner quelques points de conditions de réussite des partenariats entre les villes, notamment l'éducation nationale et les associations, parce que c'est quand même les trois pieds sur lesquels nous travaillons tous, plus ou moins en tiraillement. Je pense qu'il y a une des clés de réussite, c'est la permanence des acteurs. Donc moi, c'est vrai que ça fait 10 ans que je travaille, et depuis 10 ans, nous avons tissé des liens à la fois avec l'éducation nationale, donc j'ai ma collègue ici de l'éducation nationale avec laquelle nous sommes venus ensemble, à travers un dispositif qui a été le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc on a pris celui-là parce que c'est celui qui a été le plus mobilisateur. D'autres existent, projets éducatifs locaux, puisqu'on en a créé un il y a très peu de temps, on a signé un PEDT, on a travaillé en partenariat en permanence. Mais l'enjeu, c'est que, effectivement, entre le niveau de pilotage, de décision financière et de constat des besoins, il puisse y avoir de la porosité. Or, l'enjeu pour nous, c'est que en permanence, de mettre en tension les besoins et les moyens. Parce que s'il n'y a pas ça allait venir entre besoins et moyens, il y a quelqu'un, quelque part, qui va décider des moyens, en âme et conscience, ou par rapport à des consignes reçues, et, bien évidemment, il y a deux choses qui ont percuté ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la réforme des rythmes scolaires, qui est un enjeu, évidemment, à surcoût pour les collectivités, d'accord, mais ça, c'est pas un problème en soi. C'est, par contre, l'enjeu des moyens financiers des collectivités locales qui a été remise en question, et c'est vrai que cette tension-là, intéressant parce qu'elle nous a permis de nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? La question que vous avez aujourd'hui évoquée est essentielle sur l'impact de l'aide aux devoirs, comment on le traite. À Strasbourg, c'est vrai qu'on a une tradition où ce sont les associations se mobilisent autour de l'école. Mais nous avons décidé, entre partenaires ville et éducation nationale, de créer des sites pilotes au cours desquels, tout simplement, on permet aux chefs d'établissement des collèges, les directions des écoles élémentaires, et les financeurs de se réunir au niveau technique pour discuter en temps réel des besoins et des moyens à affecter. Donc ça c'est déjà un premier point. Après, effectivement, on a mis en place une formation pour l'ensemble des associations qui est obligatoire, puisqu'elles sont liées au fait que ce soit des financements publics, et ce qui nous a permis, depuis 10 ans, d'installer dans les coordinations associatives des méthodes, des méthodologies, issues d'éducation populaire notamment, pour permettre la prise en compte des enfants et de leurs devoirs. Par contre, ce qu'on a perdu à un moment donné, c'est l'intervention de la FEV à Strasbourg, c'est-à-dire cette intervention qui était sur deux plans, une intervention collective d'un côté avec les associations dans l'école, la Ligue de l'enseignement, et l'intervention au cœur des familles en fonction de l'analyse que faisaient les enseignants des difficultés. Donc on avait plusieurs sources et possibilités d'aider des enfants, à la fois en collectif, en petit groupe, mais aussi en individuel à la maison. Et on a perdu quelque chose de très important, c'est la notion des élèves de l'université qui ne vivent plus dans les quartiers, parce qu'aujourd'hui, ce job qu'ils avaient, qui était d'aller faire de l'aide aux devoirs dans les familles, ils n'y vont plus. Donc en fait, il y a aussi quelque chose de l'ordre du lien social qui a été rompu entre des gens qui font des études, qui ont besoin d'argent et qui vont soit au McDonald's, soit ils vont à l'aide aux devoirs. Et bien, quand ils allaient à l'aide aux devoirs, ils avaient une formation, une prise de conscience et effectivement des difficultés des enfants qui rentraient. Voilà. Donc ça, c'était pour donner un exemple. Je pense qu'il y a aussi la permanence des acteurs, le fait qu'il y ait un turnover constant des professionnels de la politique de la ville, parce que moi, je suis aussi pivot sur l'écriture du nouveau contrat de ville sur le volet éducatif et culturel. Donc là aussi, on peut rapporter toute cette expérience qui a été faite des sites pilotes. Donc je pense que ça, c'est très important pour les institutions, qu'elles mettent des gens de manière un peu pérenne sur 10 ans, si elles le peuvent, pour que des choses se construisent, et notamment des collaborations humaines.